franceinter.fr.
19h16, le journal des sports et une actualité très chargée ce dimanche pour les sports. Fanny Lechevestrier, bonsoir.
Bonsoir Lionel. Et à l'affiche ce soir, effectivement, bien sûr, Roland Garros en première balle aujourd'hui, premier match et première surprise. Alors que Lucas Pouille est sur les cours, nous irons prendre de ses nouvelles dans un instant. Mais notre palme sportive du jour est décernée à Thibaut Pinot, quatrième du Giro. À ne pas manquer non plus une plongée dans l'ambiance des 500 miles d'Indianapolis avec plus de 400 000 spectateurs. Et puis retour à Angers où, malgré la défaite, les joueurs sont accueillis ce soir en héros.
France Inter.
Et direction d'abord donc la Porte d'Auteuil à Paris avec le début des internationaux de France de tennis.
Et c'est parti depuis ce matin pour 15 jours de Roland-Garros où on le retrouve Fabrice Agbral avec actuellement sur les cours Lucas Pouille. Et c'est compliqué hein, comme entrée en matière pour lui.
Ah, c'est en effet extrêmement compliqué pour Lucas Pouille, 17e mondial, opposé à son copain, un membre de l'équipe de France de Coupe Davis, Julien Beneteau, qui lui est classé très exactement 98e joueur mondial. Et à l'instant même, Lucas Pouille qui vient de remporter le 4e set, ce qui permet donc aux nordistes d'égaliser à 2-7 partout. Il était mené 2-7-1, il revient de très loin, Lucas Pouille, puisqu'il était mené 2-7-1 et il est dans le 4e manche. Il avait un break de retard, il était mené 2-1, mais il a su réagir, il a su élever son niveau de jeu donc pour renverser la situation et donc revenir à 2-7 partout dans quelques instants après le changement de côté, le début du 5e set.
Un résultat mitigé pour les Français lors de cette première journée avec les éliminations d'entrée du vétéran Stéphane Robert, trop juste face à Dimitrov, défaite aussi d'Adrien Mananarino. En revanche, il y a déjà une belle histoire, Fabrice, c'est celle de Benjamin Bonzi, 260e mondial.
Oui, c'est vrai. Benjamin Bonzi est âgé de 20 ans. Il est 260e mondial. Il a été invité par les organisateurs et il jouera le deuxième tour. C'est un Nîmois, Benjamin Bonzi. Il a profité aujourd'hui de l'abandon de son adversaire, le Russe Daniil Medvedev. Bonzi menait 2-7-1 quand Medvedev, épuisé et victime de crampes, a décidé de renoncer. Alors Benjamin Bonzi participe à son premier Roland-Garros. Il dispute même à Roland-Garros son premier tournoi sur le circuit professionnel parce que généralement, il écume les tournois de deuxième et troisième catégorie. Benjamin Bonzi est assuré d'empocher au minimum 75 000 $. C'est en un seul match deux fois plus d'argent que tout ce qu'il a gagné depuis le début de sa carrière.
C'est pas mal. Côté tête de série, Fabrice, une grosse surprise déjà dans le tableau féminin. L'élimination de la numéro 1 mondiale, Angélique Kerber.
Angélique Kerber sortie par la Russe Ekaterina Makarova en 2-7 très sévère, 6-2, 6-2. Makarova n'est pas une inconnue, elle avait atteint notamment les demi-finales à l'Open d'Australie en 2015. Alors cette défaite de Kerber est historique, c'est la première fois qu'une tête de série numéro 1 est éliminée dès le premier tour dans le tableau féminin.
Et merci Fabrice Agbral, vous nous ferez vivre ce Roland-Garros version 2017 tout au long de la quinzaine avec pourquoi pas, on l'espère, un exploit français. Là, on n'est pas passé loin de l'exploit. Thibaut Pinot finit le Giro, le Tour d'Italie cycliste au pied du podium. Quatrième à l'issue de l'ultime contre-la-montre entre Monza et Milan cet après-midi. Quatrième au terme d'une 100e édition remportée par le Néerlandais Tom Dumoulin. Et après une victoire d'étape en montagne, la première, hein, s'il vous plaît, d'un Français depuis Charlie Mottet en 1990. Mais aujourd'hui, il n'avait tout simplement pas les jambes. Thibaut Pinot au micro de nos confrères de l'équipe TV.
Forcément, je m'y attendais. Il fallait vraiment que ce soit une grande journée. C'était un chrono qui était très spécial et voilà, j'ai jamais trouvé vraiment mon rythme, donc j'ai donné, j'étais à fond et voilà, j'ai fait un chrono très moyen encore et j'avais l'impression vraiment de pas avoir de force sous le plat, d'avoir vraiment mon coup de pédale de grimpeur et c'était compliqué pour moi aujourd'hui. À chaud, c'est sûr que je suis déçu, mais voilà, il y aura une belle victoire et voilà, jusqu'à ce matin, j'étais quand même pour la lutte pour la victoire, donc je suis quand même content, il y a des choses positives et voilà, 20 étapes près, j'étais quand même pour la gagne du Giro, donc c'est important pour l'avenir. Ouais.
Et pour mieux souligner la performance, notez que les 4 premiers coureurs, après plus de 3500 km et 3 semaines de course, se tiennent ce soir en moins d'une minute 20.
Et en football, une question ce soir, Fanny. Le club de Lorient sera-t-il encore en Ligue 1 la saison prochaine?
Rien n'est moins sûr. Hein. Les Merlus doivent l'emporter ce soir face à 3 équipes de Ligue 2 en match de barrage retour. Le match se déroule à domicile, mais attention à l'aller. 3 avait créé la surprise en s'imposant 2-1. Coup d'envoi de la rencontre à 21h. La surprise, eux, en ont rêvé jusqu'à la 91e minute de jeu hier soir, tenant en tête au grand PSG en finale de la Coupe de France pour s'incliner finalement dans les arrêts de jeu. Les Angevins ont perdu perdu, mais ils font tout de même aujourd'hui la fierté de leur ville. Ils ont été accueillis presque comme des vainqueurs tout à l'heure, avec des centaines de supporters les attendant sur le parvis de l'hôtel de ville. Reportage Nicolas Fillon.
Des héros malheureux, mais des héros quand même. Ils étaient 20 000 au Stade de France hier soir. Et cet après-midi, ils étaient plusieurs centaines de supporters angevins aux abords de l'hôtel de ville pour rendre hommage à la saison exceptionnelle du Sporting Club de l'Ouest et à cette désormais fameuse dalle angevine, ce côté mort de faim qui ne lâche rien et que l'on a bien vu hier soir face au PSG. Et d'honneur, applaudissements à tout rompre et défilé des joueurs sur le parvis. Patrice, 39 ans, était au Stade de France. Ses oncles étaient même présents à Colombes il y a 60 ans pour la première finale de Coupe de France perdue par le SCO. Pour lui, c'était important d'être là.
Ça compense un petit peu, on a envie de revoir les joueurs. La ville est assez unie, c'est vrai qu'il y a une réelle communion des supporters et de cette équipe en fait, qui monte en puissance. Nous, on est venus pour montrer ça, et malgré la défaite, et les joueurs nous l'ont bien rendu, donc c'est sympa.
Et les joueurs du SCO ont promis à leurs supporters de revenir en finale l'année prochaine, mais avant ça, repos, avant d'enchaîner une troisième saison de suite en Ligue 1. À Angers, Nicolas Fillon pour France Inter.
Et pour le PSG, hein, les grandes manœuvres pour la saison prochaine vont débuter, mais hier, le président Nasser Al-Khelaïfi l'a redit, Unai Emery, l'entraîneur, sera présent à 200%. Avant de refermer cette page football, un coup de chapeau à Francesco Totti, un dieu à la Roma. Le numéro 10 italien dispute son tout dernier match aujourd'hui après 25 ans passés sous le même maillot. Rien que pour cela, c'est tout simplement un phénomène dans le football moderne.
Allez, on va voyager un peu plus loin maintenant aux États-Unis avec cette immersion dans l'univers des 500 miles d'Indianapolis.
Ouais, on retrouve tout de suite notre envoyé spécial Guillaume Batin avec cette course automobile mythique, hein, partie depuis un peu plus d'une heure maintenant et suivie, Guillaume, par quelques 400 000 spectateurs.
Oui, rien que ça, qui sont dans l'attente puisque la course a été interrompue pour la première fois au bout de 54 tours de piste. Deux voitures se sont percutées à pleine vitesse en sortie de ligne droite à près de 400 km/h. Ce sont le Britannique Jay Ward et l'Australien Scott Dixon. La voiture de Dixon s'est littéralement envolée pour retomber sur la barrière de sécurité. Le choc et la chute ont été d'une telle violence que la monoplace a été coupée en deux. On a vu le moteur en feu partir d'un côté, le reste de la voiture de l'autre. Les pilotes n'ont rien. C'est un miracle, mais ce genre d'accident, évidemment, fait partie des 500 miles d'Indianapolis. Et les voitures ne freinent quasiment jamais. Elles roulent à 370 km/h en moyenne. Et la moindre faute, on vient de le voir, de pilotage ne pardonne pas. Au classement, c'est la surprise. Le rookie, le débutant de l'année, le double champion du monde de Formule 1, l'Espagnol Fernando Alonso, parti 5e et 1er, avant la reprise de la course. Quant au Français Simon Pagenaud, parti 23e, il est 16e actuellement.
Et si vous voulez en savoir plus hein, sur cette course, pas comme les autres, un très joli dossier est à retrouver sur le site internet de France Inter. Mais pendant que Fernando Alonso dispute Indianapolis, eh bien, il y a un grand prix de Formule 1 aujourd'hui avec le Grand Prix de Monaco et un doublé Ferrari Vettel Raikkonen, alors que les Français Romain Grosjean et Esteban Ocon ont pris les 7e et 12e places. Jean-Pierre Blimeau.
Il s'est passé plein de choses derrière et rien devant. Romain Grosjean, meilleur des deux Français, résume bien la situation après ce Grand Prix de Monaco dominé par les Ferrari. Comme prévu, la première ligne a été déterminante pour la Scuderia et Vettel s'envole au championnat du monde. Côté tricolore, Romain Grosjean entre donc dans les points avec sa 8e place, mais il aurait aimé davantage de fiabilité avec ses pneumatiques. Romain Grosjean.
Maintenant, c'est toute l'utilisation des pneus, clairement. Il faut qu'on arrive à comprendre un petit peu plus ce qui se passe autour de ça parce que c'est ce qui nous retient et ce qui fait que quand tout est dans le vert, on fait des super courses ou des super qualifs comme en Australie. Et quand ça marche, ça fonctionne pas, on est comme en Russie en grande difficulté.
Grosjean 8e, Esteban Ocon, qui découvrait Monaco à 20 ans, a aussi découvert la malchance, une crevaison qui lui a fait perdre beaucoup de temps. Esteban Ocon.
On n'a pas la chance, voilà, on a fait 5e la dernière course. Aujourd'hui, les deux voitures, pas de points, c'est comme ça, mais voilà, j'ai pas touché. La crevaison, c'est vraiment de la malchance. Le team a calculé que j'aurais dû faire 8e.
Chez Renault, le bilan est mitigé. Jolyon Palmer, le Britannique, est 11e, aux portes des points. Nico Hülkenberg, l'Allemand, abandonne avec une boîte de vitesse cassée. À Monaco, Jean-Pierre Blimeau, France Inter.
Et Sébastien Vettel hein, qui prend le large au classement général après cette 3e victoire de la saison.
En parlant de prendre le large, et si on faisait un petit tour aux Bermudes?
C'est l'actualité voile de la semaine. C'est aux Bermudes que se déroule la Coupe de l'América. Et on ne peut pas dire que cela est bien commencé hein, pour le bateau français de Franck Camas, battu hier et par les États-Unis et par la Nouvelle-Zélande. La 3e régate va débuter dans quelques instants, Jérôme Val. Les tricolores sont déjà tout simplement dans l'obligation de l'emporter.
Exactement, Fanny. Et même là, ça a démarré, hein, cette régate qui ouvre la deuxième journée de course. Et c'est très, très serré entre le bateau français et le défi suédois. Il y a quelques secondes seulement d'écart entre les deux bateaux. C'est quelques dizaines de mètres sur le plan d'eau des Bermudes. Vous l'avez dit, les Français dans l'obligation d'empocher le point de la victoire aujourd'hui. Ça sera la seule course pour les Français aujourd'hui. Donc, il faut absolument un point sous peine d'être décroché au classement. Parce que vous le savez, dans cette première phase de la Coupe de l'Amérique, la phase des qualifications, le dernier au classement à l'issue de ces phases de qualification qui se termineront le week-end prochain, mais le dernier sera éliminé. Exit pour la lanterne rouge et ça va se terminer la course, Fanny, peut-être en direct sur France Inter dans quelques instants avec sans doute la victoire française et le premier point pour les équipiers de Franck Camas. 5-4-3-2-1 et c'est fait, les Français qui empochent leur première victoire dans cette Coupe de l'Amérique avec 3 secondes d'avance, 3 secondes d'avance alors que la course a duré une vingtaine de minutes. C'est un finish incroyable pour les Français qui peuvent se congratuler à bord du bateau. C'est fait. Premier point pour la France. Tous les espoirs sont désormais permis avant les courses qui auront lieu demain.
Et voilà, une course relancée. Merci Jérôme Val, envoyé spécial aux Bermudes pour la Coupe de l'Amérique. Et puis il y avait aussi toute cette semaine de la natation avec les championnats de France, cruciaux pour les mondiaux cet été à Budapest. Et là aussi, toute petite cuvée puisqu'ils ne sont que 10 à avoir réussi les minima, dont les anciens Stravius et Lacour. Les années fastes de la natation tricolore semblent très loin, Franck Ballanger.
Depuis 2001, où seulement 5 nageurs français étaient allés aux mondiaux de Fukuoka, il n'y avait jamais eu aussi peu de nageurs qualifiés pour des championnats du monde. Devant ce piteux bilan, plusieurs facteurs ont été mis en avant. La retraite d'abord de nombreux cadres, la relève ensuite qui tarde à s'affirmer et la tenue tardive de ces championnats de France. Les entraîneurs et les nageurs étaient habitués à des sélections au mois de mars. Ils n'ont pas su s'adapter, mais quelles que soient les raisons de cet échec, il était attendu par Gilles Sézional, le nouveau président de la Fédération française de natation.
Pour moi, c'est tout sauf une surprise, ces championnats. Je suis presque heureux d'avoir une dizaine de nageurs sélectionnés à titre individuel.
Pendant 2 ans, Francis Luis, l'ancien président de la FFN, avait décidé de confier les clés du camion, de donner tous les pouvoirs au cercle des nageurs de Marseille. Jacques Favre, le directeur technique national, était marseillais et Romain Barnier, le patron de l'équipe de France aussi. Les nouveaux dirigeants ont décidé de changer la donne avec un nouveau directeur technique national, Laurent Guivarch.
En fait, l'idée c'est d'enlever les clés à tout le monde et de leur dire on va construire ensemble quoi. Et le camion, on va le conduire ensemble. On va essayer de construire.
En attendant la reconstruction, cet été aux Mondiaux de Budapest, ils ne seront que 4 à pouvoir rêver d'une médaille. Le fiasco des Jeux de Rio pourrait se poursuivre en Hongrie. Achille Tigheim, Franck Ballanger, France Inter.
Et un petit rectificatif en Formule 1, je vous ai annoncé la 7e place de Romain Grosjean au Grand Prix de Monaco. Il a finalement terminé 8e. Ocon, en revanche, 12e de ce Grand Prix de Formule 1. Un dernier mot avec Roland Garros et des nouvelles de Lucas Pouilleux. On est entré dans le 5e set. 7-6, 3-6, 4-6, 6-3, 1 partout.
Merci, c'était le journal des sports de Fanny Lechevestrier.